belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un homme qui ne s'arrête jamais. Un homme qui aime les livres, la peinture, la musique, l'art enfin. Et qui, non content de les aimer, se bat pour les montrer, les partager. On arrête là les énumérations. Il vient aujourd'hui sur Radio FM+ pour une belle rencontre. Bonjour Jean-Claude Rivière.
Bonjour Nathalie.
Vous allez bien ?
Ça peut aller, merci.
Ça peut aller. Jean-Claude, première question, qui est la question rituelle, je crois que vous connaissez l'émission. C'est quoi pour vous une belle rencontre ?
Une belle rencontre, je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas prévu et qui se passe de façon spontanée, sans arrière-pensée, sans préméditation. C'est surtout un lâcher-prise face à une situation comme celle-ci, puisque finalement l'émission arrive et qu'est-ce qui va se passer ? Il se passera une belle rencontre.
Vous en avez eu la chance d'en faire beaucoup, des belles rencontres ?
Quelques-unes, oui.
Mm-hmm. Ça enrichit les belles rencontres ? Ça nourrit, en tout cas ?
Ça enrichit sur le moment. Après, on peut se poser la question, si la belle rencontre ne se contente pas d'être une rencontre, mais l'important, c'est qu'elle ait pu exister.
Et vous qui aimez toute forme d'art, en tout cas de nombreuses, est-ce que ça peut être aussi une belle rencontre, un livre, une peinture, un dessin, aussi une production qui répond à une attente chez vous et qui est, j'ai rencontré tel auteur qui a changé ma vie ?
Oui, j'ai rencontré un chanteur, une chanson, une musique, un tableau. La rencontre, ce n'est pas uniquement une personne. Mm-hmm. C'est tout ce qui peut être moteur de surprise, d'émerveillement. En tout cas, la rencontre, si ce n'est pas positif, ce n'est pas une rencontre, c'est une catastrophe.
C'est une mauvaise rencontre.
Voilà, c'est une catastrophe.
Ça arrive aussi, j'ai fait des mauvaises rencontres.
Mais ça nous est arrivé à tous. Heureusement d'ailleurs, ça permet de valoriser les bonnes.
On va parler un peu de vous. Jean-Claude Rivière. Il y a un psychologue, alors j'étais voir, j'étais persuadée que c'était Salomé qui avait dit ça, mais non, c'est Dodson, c'est un psychologue américain, qui dit que tout se joue avant 6 ans. Bon, on ne va pas remonter jusqu'à 6 ans, mais vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, Jean-Claude ?
Oui, mais c'est très simple, c'est une enfance classique de jeune homme né après la guerre, donc dans une France qui n'était pas si mal finalement, et qui a été sans problème avec des parents aimants, une scolarité plutôt très bonne.
Un accès justement à l'art, par exemple à la lecture, il y avait des bouquins chez vous, vos parents avaient du goût pour la culture ?
Alors oui, mes parents avaient du goût pour la culture, mais ils n'étaient pas très riches en bouquins. Enfin, il y en avait, mais pas au niveau auquel je suis arrivé aujourd'hui. En attendant, je suis quand même arrivé dans un milieu qui était, sans parler d'art, qui était quand même un milieu tourné vers la beauté. Mon père avait fait les beaux-arts, même si ça ne s'en servait pas. Ma mère savait dessiner, savait jouer du piano, donc c'était naturel. Bon, il n'y avait pas de prédisposition particulière à nous conditionner, mais je pense qu'on baignait dans quelque chose qui était, sans le savoir, un milieu culturel.
Ils étaient prescripteurs de certaines choses, par exemple, lis ce livre, regarde ce peintre, est-ce qu'ils vous ont amené ?
Alors ma mère jamais, mais mon père oui, il était assez facilement bon conseiller. D'ailleurs il s'avère que ses conseils étaient quand même de bonne qualité, mais c'était des goûts très sûrs, très classiques.
Je sais que vous aimez beaucoup la musique classique, par exemple, qu'est-ce qui vous a amené tout seul, vous y êtes arrivé ou c'est aussi une transmission la musique classique ?
La musique classique c'est avant tout la radio qu'on écoutait chez mes parents, dont finalement il n'y avait pas beaucoup de programmes hors des programmes classiques, et d'une. Et de deux, je pense que la musique classique, ne dérangeant pas, j'aimais bien les choses qui étaient relativement sereines. Mm-hmm. Et bon, c'est vrai que la musique classique peut être aussi très dérangeante. En principe, pour moi, c'était une musique qui était un accompagnement harmonieux.
Le premier choix, quand on s'est rencontrés pour Pandémie, de musique, c'était... Rappelez-moi, ce n'est pas les Indes Galantes que vous aviez choisies ?
C'était les Barricades Mystérieuses.
C'est ça, magnifique morceau. C'est une musique que vous aimez bien, la musique baroque ?
C'est une musique que j'ai découverte tardivement parce que justement, elle n'était pas très à la mode lorsque j'étais plus jeune. Et c'est une musique qui a des dissonances, qui a des ressemblances avec des choses beaucoup plus modernes, contemporaines, comme certaines œuvres de la fin de Beethoven. On ne les écoute pas parce qu'elles n'étaient pas aux normes. Aux normes d'harmonie qu'on essayait de nous inculquer. Mais c'est vrai que la musique baroque, c'est une musique qui peut être très dissonante, très discordante, effectivement. Les Indes galantes en font partie.
Après cette enfance, l'adolescence, et on se trouve devant les choix de vie, quelles études, Jean-Claude Rivière ?
Alors, des études qui ont été très faciles d'ailleurs, puisque je n'ai pas eu de soucis pour avoir des diplômes. Donc, j'ai fait quelques allers-retours. Il y a eu la médecine qui a été choisie mais abandonnée après le service militaire et qui était un tournant chez tous les jeunes hommes de cette époque-là. Ensuite, il y a eu ce qui était peut-être plus proche de mes goûts profonds, l'histoire et l'histoire médiévale, avec une espèce de prédisposition pour tout ce qui était architecture et décor. Et puis j'ai fait aussi du droit, donc voilà, je crois que j'ai touché un peu à toutes les grandes familles des classiques, médecine, histoire, littérature et droit, donc le juridique.
Donc vous arrivez à l'âge adulte, tous ces choix différents, ils vous amènent vers quel métier ?
Alors, j'étais déjà adulte quand j'ai terminé. Le premier métier que j'ai fait vraiment, c'était de passer des concours que j'ai réussi, mais auxquels je n'ai pas donné suite. Ça me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était le concours, pas ce qui était derrière. Ensuite, je me suis retrouvé dans des engagements commerciaux par hasard, parce qu'avoir des amis, parfois, ça entraîne à des choix. Et ça a été une très longue partie de ma vie où j'ai fait du commerce, mais dans l'optique de la littérature, puisque dans mon commerce, il y avait l'imprimerie, il y avait tout ce qui concernait l'écriture. Donc, je pense que j'étais quand même assez orienté.
Déjà dans les lettres.
Oui, alors j'ai également été enseignant, évidemment, parce que j'ai oublié de dire qu'au passage, j'ai quelques belles années d'enseignement autour des années 68. C'est d'ailleurs 68 qui a été le déclencheur pour changer de mon fusil d'épaule, si on peut dire. Et puis, toute ma vie s'est passée entre l'enseignement et l'art, puisqu'ensuite, ça a été l'archéologie, la conservation de musées, mais de petits musées. J'avais proposé le Louvre. Et puis, il y a eu du journalisme culturel, qui a été arrêté brutalement en 2019 par un événement dont on parlera, qui a été une grosse, je dirais, un moment charnière dans ma vie actuelle. Et puis, il y a eu la littérature par le biais de certaines éditions de poèmes. Et enfin, Ubicar, qui est, je crois, l'aboutissement de tout un parcours, alors qui paraît ne pas être très, très cohérent, mais si quelque part il y a une certaine cohérence, il y a un fil conducteur.
On va en parler en deuxième partie d'émission, justement, d'Ubicart. Et en introduction, j'ai parlé de votre plus que goût pour l'art, pour toutes les formes d'art. Est-ce qu'il y a, vous nous dites que c'est quasiment depuis toujours, hein, cette envie et cet amour, est-ce qu'il y a des géants pour vous, je ne sais pas, Victor Hugo en littérature, Manet en peinture, Mozart en musique, est-ce qu'il y a des gens qui, pour vous, sont incontournables ?
Je vais répondre de façon assez évasive, parce que je crois que mes géants, ils sont un petit peu capables de se transformer en nains de temps à autre. Donc, oui, effectivement, j'ai eu des moments où j'ai été passionné par Picasso, par exemple. Ouais. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai trouvé que Dali était fabuleux. C'est encore plus le cas aujourd'hui. Puis il y a des gens beaucoup moins connus que je découvre au hasard. Et finalement, je n'ai plus de référence en matière d'art graphique, dans la mesure où je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses remarquables, puis d'autres qui le sont moins, dont mes goûts sont assez variables. En matière de littérature, oui, à part bien sûr les monuments incroyables que sont Proust, que sont Victor Hugo. Il y a des gens beaucoup moins connus que j'apprécie énormément, comme l'ami Prévert, moins connu parce qu'aujourd'hui, Prévert, on l'a un peu oublié. Et puis, il y a même le trompettiste...
Vian. Boris Vian.
Absolument, Boris Vian. Voilà, je cherchais quel était le trompettiste, c'est bien. Boris Vian, qui me surprend beaucoup parce que je le relis ces temps-ci. Et je me rends compte qu'il n'était pas complètement à côté de la plaque. Il avait bien rencontré la vie, il savait en parler. Et puis, il y a aussi Albert Camus, que je viens de relire aussi. Donc, finalement, là aussi, les géants, il y en a. Mais sont-ils vraiment des géants? Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des phares qui permettent de prendre des orientations. Ils donnent des pistes et puis on a le droit d'en changer. Et on parlait aussi de musique. En musique, c'est pareil. J'ai découvert le jazz que je ne connais. Alors, le jazz, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert dans les années où j'étais déjà un grand garçon. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des chanteurs qui sont à la fois des poètes, des écrivains, des musiciens. On ne va pas donner comme référence Brassens, évidemment. Mais il y en a aujourd'hui encore qui existent et qui sont très bien. Donc, je pense que... Non, je n'ai pas le culte du... de la personnalité ou de l'œuvre qui me servira de poisson pilote, pas du tout.
Et toutes ces découvertes, tous ces accompagnements, il y a des fois où... qu'est-ce qui fait, par exemple, alors posons la question très clairement, qui fait que votre regard sur quelqu'un comme Picasso change, par exemple? C'est ce que vous apprenez de... Non, parce que j'ai un peu le même chemin. C'est vrai que, par exemple, le rapport que Picasso a avec les femmes me donne une lecture de son œuvre, notamment tout ce qui est fait autour du Minotaure, etc., extrêmement sexué. Alors, j'ai rien contre les choses sexuées, hein, c'est pas du tout, au contraire, mais cette espèce de violence et qui a accompagné toute sa vie, en définitive, à Picasso, c'est ça qui peut vous faire voir l'œuvre différemment ?
Ben, disons que, dans un premier temps, l'œuvre, je la vois de façon désincarnée. Donc, c'est vrai que Picasso m'a donné l'occasion d'avoir des émotions purement artistiques. Mais Picasso, ce n'est pas non plus quelqu'un qui est... Il n'est pas désincarné, Picasso. Mm-hmm. Picasso existe en tant qu'individu. Et l'être Picasso, ben, j'en reviens beaucoup. Donc c'est vrai que n'ayant pas de véritable envie de confondre l'œuvre et l'homme, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être essayer d'être plus... d'être plus pragmatique et de se cantonner à ce qu'on va avoir comme première impression. Mm-hmm. Donc c'est vrai que plus on rentre dans le personnage Picasso, le personnage Dali, il y a tout, mais tous les auteurs, tous les peintres, tous les artistes ont quand même des failles. Bon, ils sont pas parfaits, heureusement d'ailleurs. Et où on les aime davantage ou on les aime moins. Mm-hmm. Je pense par exemple à Prévert, que je trouve de plus en plus intéressant parce que le personnage me plaît beaucoup.
Mais je suis comme vous, moi je serais toujours du côté, enfin, par exemple Prévert, puisqu'on parle de cette période-là, c'est André Breton. Et c'est vrai que je serais toujours du côté de Prévert contre Breton et toujours du côté de Camus contre Sartre. Enfin, je ne sais pas. Pourtant, c'est. D'ailleurs, quelle est la part pour vous aujourd'hui, vous qui connaissez tellement de choses au niveau de l'art, et qui nous donne des discussions sans fin, tous les deux, mais sur la place de l'émotion dans l'art, par exemple. Est-ce que, parlons de création très contemporaine, de peinture très contemporaine, est-ce que vous êtes porté encore pur que par l'émotion quand vous êtes devant une œuvre, quelle que soit l'œuvre, hein, musicale, peinture? Ou est-ce que le fait que vous l'expliquiez, que vous puissiez l'analyser, que vous avez les outils d'analyse, ça pourrait même vous amener à aimer une œuvre que quelque part votre émotion ne cautionne pas? Vous voyez la question?
Je vois très bien, et en même temps, je pense que c'est très difficile de répondre parce que, intellectuellement parlant, c'est intéressant de se mettre à découvrir une œuvre parce qu'on peut l'expliquer. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire qu'on apprécie une œuvre? Est-ce qu'on ne va pas l'apprécier parce qu'on s'est dit qu'il fallait, on s'est expliqué à soi-même qu'il fallait l'apprécier? Je serais beaucoup plus épidermique. Je pense que je vais de plus en plus, peut-être parce que j'ai l'âge, il y a eu des événements qui m'ont fait peut-être jeter aux orties certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de géant. Parce que le géant d'aujourd'hui, c'est peut-être le nain de demain. C'est l'émotion qui compte. Ce qui est important, ce qui est géant, c'est l'émotion. Et cette émotion, elle est totalement incontrôlable. C'est d'ailleurs le propre d'une émotion. Mm-hmm. Pourquoi est-on ému par une œuvre? Ben, y a des raisons, mais si on commence à les chercher, l'émotion va partir. Il restera l'intelligence, la compréhension.
Après, il y a des fois juste le fait d'expliquer, par exemple, dans l'art. Enfin, je pense toujours à l'art contemporain qui a peut-être besoin plus d'être expliqué. Vous savez, il y a tous ces gens qui disent « Ah, un enfant aurait pu le faire ». Mais il y a aussi toute une dimension dans l'art de dénonciation, de qui n'est pas... Enfin, je pense à ces tableaux, je ne me rappelle plus quel est l'artiste femme, d'ailleurs, qui peint ces monochromes blancs. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais enfin, il y a aussi un travail de dénonciation dans l'art qui existe ».
Est-ce que c'est un but, ou en tout cas, est-ce que c'est l'objet de l'art d'être... un levier pour dénoncer quelque chose? Est-ce que l'art n'a pas à se contenter d'être l'art?
Je vous propose de garder le thème de l'émission pour un échange.
Voilà, non mais c'est quand même difficile de penser que, d'abord, dans l'art, il y a effectivement une vision qui est émotionnelle. C'est Elle sûr. Doit l'être. Et si on commence à chercher... Mais c'est très bien d'utiliser l'art pour des moyens, pour des grandes idées que l'on voudrait arriver à faire passer. Mais c'est peut-être pas ça qui est le propre de l'art, c'est justement de se détacher. Sinon, on revient à l'art de la Renaissance, on revient à la commande, on revient à des artistes qui sont des artisans. D'ailleurs, le mot artiste, il est récent. Au Moyen-Âge, on n'a jamais parlé d'artiste, on a parlé d'artisan. Mm-hmm. On a parlé de maître carrier, de sculpteur, mais ce n'était pas des artistes. Ils l'étaient, mais le terme n'avait même pas de raison d'être. Donc, je pense que l'art doit rester ça, quelque chose qui est lié à une émotion première, et ensuite lui donner des vocations à être l'outil pour changer le monde, etc. Oui, peut-être, mais émotion d'abord.
Ben, on va rester dans l'émotion avant de marquer notre première page musicale. Je voudrais que vous nous parliez rapidement, parce que bon, voilà, c'est vrai que c'est un événement très intime, et vous avez eu un gros accident de vie, une maladie qui a failli vous laisser sur le carreau, on va dire. Et il y a 3 ans.
2019.
Ah oui.
2019, oui, ça
fait presque 5 ans.
Le temps passe, cher ami.
Et en quelques mots, mais c'est important pour vous comprendre, qu'est-ce que ça a changé en vous? Évidemment, on ne peut pas comme ça passer à côté de la mort, et puis en restant aussi avec une certaine forme de fragilité que vous n'aviez pas avant. Comment vous appréhendez justement la vie quotidienne, mais aussi la vie philosophique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, spirituelle?
Je vois très bien. Il y a un avant et un après. Avant, on se dit que les choses vont bien et qu'on peut encore avoir des fantaisies, des idées, on ne peut pas papillonner. Après, il faut aller à l'essentiel. Parce que depuis cet événement 2019, où je ne suis pas passé à côté, je suis réellement mort. Cliniquement, j'ai été mort pendant un certain temps. Bon, juste le temps de me rendre compte que ce n'était pas ma vocation première. Je pouvais encore continuer. Mais après, on se dit qu'on vit une période de bonus. Or, le bonus, on l'a, mais est-ce qu'il est éternel? Certainement pas. Donc, on a plutôt l'impression que cette espèce de cadeau qu'on vient de nous faire, il faut l'utiliser à bon escient. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce qu'on a gagné quelque chose qu'on pensait avoir perdu qu'on va se mettre à le dépenser de façon, j'allais dire, extraordinaire, exorbitante, etc. Donc aujourd'hui, mon but principal, c'est d'aller vers des choses essentielles et de les faire, bien sûr, avec le maximum de plaisir, de bonheur, d'efficacité, parce que justement, on n'a pas de temps à perdre. J'en ai perdu pendant 70 ans du temps, puisqu'il y a 5 ans, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, je vais continuer jusqu'au plus loin possible, mais en faisant en sorte que ce temps soit du temps bien employé.
Eh bien voilà, une belle chose de dite. Et c'est bon aussi, des fois, d'être dans cette urgence. Enfin, voilà, c'est cette façon de bouffer la vie à pleines dents et à plein temps. On va marquer une première pause musicale, et vous avez choisi pour nous Les plages de Jean-Louis Aubert, on écoute et puis vous nous dites pourquoi vous avez choisi ce titre.
C'est ici, dans la ville à Paris, oui. karma.
Et vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans la belle rencontre qui est consacrée aujourd'hui à Jean-Claude Rivière. Jean-Claude, on vient d'avoir une belle discussion sur l'art. On était parti presque à continuer cette discussion, mais on va l'arrêter pour parler du Bicart et peut-être pour parler de Aubert. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Pourquoi Aubert ? Mais pour la même raison que tout à l'heure, je parlais d'émotion. Cette chanson fait partie des quelques rares chansons, il y en a une dizaine, qui me font craquer. Pourquoi ? J'en sais rien. Bien sûr, il y a des paroles, il y a une ambiance, mais il y a aussi une espèce d'état de grâce que cette musique me procure. Et je reconnais qu'aujourd'hui, je l'écoute encore maintenant avec le même plaisir que la première fois. Est-ce que ça s'explique ? Non, ça ne s'explique pas. C'est ça l'émotion.
C'est ça l'émotion.
Voilà, exactement.
Jean-Claude, on va parler du Bicart. Ah. Bicart, déjà, c'est quoi Bicart et comment est né d'abord ? Première question, comment est né le nom du Bicart ?
Bon, avant d'aller à la genèse très rapidement, il y a quelques années, j'étais journaliste culturel dans un média en ligne qui s'appelait Idées Héros. Et mon associé, partenaire, ami, etc., s'appelait Philippe Fontaine. Et nous avions décidé de faire du travail autour de la culture, mais sorti de du média radio. Donc on a monté une association, en 1901, qui s'appelle Ubicart, et qui devait faire au départ de la diffusion d'événements culturels. L'édition étant prévue les statuts de base, mais c'était qu'un élément constitutif. Et d'ailleurs, nous avons fait avec Ubicart au début des festivals, on a organisé des cycles de conférences, on a fait beaucoup de choses. Pourquoi Ubicart ? Tout simplement parce que c'est le nom d'un ouvrage très connu de Philippe Cadic, qui s'appelle Ubic, et qu'effectivement, il y a dans le côté polymorphe, dans le côté un petit peu à facettes multiples de ce premier Ubicart qui était l'association ouverte sur beaucoup de choses, ce côté un peu don d'ubiquité. Bon, il se trouve que Ubicart, le créateur du spectacle, etc., a subi quelques revers, parce que c'est pas facile de créer un festival quand on a une municipalité, je dis pas laquelle, mais qui était fort sympathique au demeurant, qui vous dit « vas-y, vas-y, je te suis », puis qui oublie qu'elle a dit ça quand le festival est passé. Et quand on le fait 2 ans de suite, à la troisième année, on est beaucoup moins partant. Donc il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être publié en tant qu'auteur, et c'était au départ dans une maison d'édition qui n'était pas Ubicart, qui était une maison d'édition qui me publiait lorsque j'étais sérieux, lorsque j'écrivais des monographies. Bon, l'ami qui est l'éditeur, qui existe toujours, a publié des poèmes, mais ce n'était pas sa tasse de thé. Et pour la première fois, j'ai publié un recueil de poèmes avec Ubicart comme éditeur. Ça a été le départ.
Et donc, ça, c'était dans les années combien ?
Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2018, je pense, 2018. Où j'ai publié un premier recueil qui devait s'appeler Elle, tout simplement, et qui a été suivi d'une sorte de compilation de textes de science-fiction qui s'est appelé Science-Friction. Ça, c'est les débuts du Bicart. 2 bouquins, un par an, C'était pas mal, mais enfin, c'était un petit peu juste comme rythme de publication.
Je les avais vus parce qu'ils étaient disponibles à la librairie Tapuscrit. Et on fait un clin d'œil à François, puisque c'est notre rencontre à nous deux. En tout cas, c'est à François Millet qu'on la doit.
Eh bien, il y a eu ces deux ouvrages qui étaient les deux premiers du Vicard, et un troisième qui est sorti encore avec l'ancien éditeur qui avait accepté de me publier encore, et sous le nom de Jean-Claude Rivière, ce qui n'était plus mon nom de plume, et qui n'est toujours pas. Ubicar ensuite accélère. Pourquoi ? Il accélère parce qu'il y a ma situation de santé qui va me remettre dans d'autres considérations que celles qui consistaient à avoir des ateliers d'écriture, en particulier ateliers d'écriture théâtralisés avec la faculté de sciences. Donc, on s'est mis à se dire que publier quand on ne peut pas faire autre chose, et qu'en plus il y avait ce qu'on a appelé le grand enfermement, on va parler de l'épidémie, de la pandémie. Donc, il y avait ça qui nous coinçait, et puis mon état de santé qui n'était pas terrible. Donc, il fallait à ce moment-là, et ça a été la première tentative de démarrer une véritable publication suivie. Mais publier quoi ? Ben, j'avais pas d'auteur à ce moment-là. J'avais surtout des amis que j'avais connus dans ces ateliers. Et on leur a proposé de continuer à travailler ensemble sur un projet qui s'appelait « Virtuelle écriture ». Pourquoi virtuel ? Parce que justement, ça restait dans le domaine du virtuel. On n'avait pas du tout envie de publier au départ. On faisait ça uniquement en ligne. Ça a été, les premiers essais ont été relativement rapides, concluants. Beaucoup d'auteurs se sont intéressés parce qu'ils avaient du temps, pour les raisons qu'on a évoquées, l'enfermement, le confinement. Et puis, il est arrivé naturellement ce qui arrive à tout le monde, c'est que ils ont voulu se lire sur du papier. Et là, il y a eu une grosse difficulté à trouver un imprimeur, puisqu'ils étaient eux aussi confinés. Et on a trouvé un imprimeur hors France, on va dire, dans l'Union européenne, ce qui a permis de sortir les premiers cahiers. Et en fait, Ubicar, c'était deux ouvrages publiés avant, et des cahiers publiés au fur et à mesure que ces auteurs qui se manifestaient de plus en plus donne des textes à éditer.
Les premiers cahiers d'écriture, je me rappelle, chez Tapuscrit en 2018-2019, il y en avait déjà là ou c'est moi qui ai un peu mélangé les dates là ?
Les premiers cahiers sont tous après 2019.
C'est ça.
Tous. Oui.
Je me rappelle de celui où il y a un bus orange dessus, ou un véhicule.
Oula, ça c'est un récent celui-là.
Ah, voilà.
Celui-là c'est un ouvrage sur l'invitation au voyage. Et le bus qui est en couverture, c'est un bus qui doit se trouver en Thaïlande.
Voilà. Je me souviens comme quoi la couverture, on en parlait avant, dans une autre émission, mais quelqu'un de chez vous, qui parlait de l'importance des couvertures.
On était déjà bien loin avec le bus. Non, au début, c'était beaucoup plus. Ce n'était pas des cahiers, c'était des tout petits calepins. Mmh. C'était pas très grand, pas très épais. Et puis surtout, il y avait peu de participants, mais ça fait boule de neige. Donc ça, c'était les débuts du Vicard avec Virtuelle Écriture. Donc, on peut dire que l'un est né avec l'autre. Et que si actuellement, ces fameux cahiers dont on parlera peut-être tout à l'heure sont toujours existants, Vicard n'est que l'éditeur.
D'accord.
Demain, si les cahiers sont repris par quelqu'un qui a de meilleures idées que moi, il peut les faire éditer ailleurs, chez Gallimard s'il veut, par exemple.
Mais c'est important quand même, ces cahiers, pour vous.
Alors, c'était important parce que ça a été la pépinière de ce qui est devenu une sorte d'équipe d'auteurs. Au début, la plupart des auteurs qui ont demandé à être publiés, c'était des gens qui étaient des habitués, qui ont publié dans tous les cahiers. C'est le cas, par exemple, de la PEPA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, bien sûr.
C'est notre amie Marie-Agnès qui l'a reçue.
Voilà, donc la PEPA, qui est une poétesse, mais aussi une artiste qui fait des choses comme des collages, a été tellement intéressée par cette publication qu'elle m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de publier un ouvrage pour elle. Et donc, au fur et à mesure, on a pris parmi ces auteurs qui étaient entre 20, 25, jusqu'à 30 par numéro, des gens qui avaient les moyens de faire un livre, parce que écrire un livre complet, même un recueil de poèmes, ça demande du travail. Et c'est vrai que tous n'étaient pas dans cette situation, il y avait beaucoup de dilettantes, beaucoup d'amateurs, c'était le but d'ailleurs. Et finalement, au fur et à mesure, on a réussi à avoir, je crois que dans les cahiers, on a publié pratiquement 70 auteurs différents, et c'est sur ces 70 auteurs, il y en a une bonne vingtaine qui sont devenus les auteurs du Vicard.
Mmh. Aujourd'hui, le catalogue, il fait 90 titres à peu près ?
À peu près, c'est ça, oui. En comptant les cahiers.
D'accord.
En comptant les cahiers.
Avec certains qui ont écrit plusieurs livres. Donc,
tout à fait.
Il y a quoi, une soixantaine d'auteurs ?
Alors actuellement, il doit y avoir, si on compte tous les auteurs, on doit tourner autour de 80 auteurs, mais en comptant les auteurs qui ont participé au cahier. les auteurs qui sont ceux qui ont publié en tant qu'auteurs d'ouvrages dont ils sont les seuls propriétaires, enfin en tout cas dont ils sont les seuls rédacteurs, on doit tourner autour d'une trentaine.
Surtout qu'on parlait des accidents de la vie, il y a ce qui vous a touché personnellement dans votre santé, dans votre chair, mais il y a aussi les accidents de la vie qui n'ont rien à voir avec la santé, mais par exemple la guerre en Ukraine qui a rebattu beaucoup les cartes, parce que quand vous avez commencé à lancer Ubicart, il y avait cette collection Grands Esprits, Petits Prix, où on avait vraiment des très beaux textes pour 8-9 euros maximum, il y en avait même à 7 euros, je crois, il y en avait vraiment qui n'étaient pas chers du tout. Et le prix du papier, tout ce qui se passe dans le milieu de l'imprimerie a été aussi un choc à accuser en tant qu'éditeur, parce que vous ne pouviez plus tenir les mêmes prix, ce n'était plus possible.
Disons qu'au début, il y avait aussi une volonté de faire des ouvrages qui étaient accessibles à tout le monde et qui permettaient à des auteurs de pouvoir publier facilement. Bon, il s'avère qu'il faut aussi faire vivre une maison d'édition et que pour faire vivre, il faut qu'il y ait du bénéfice. Eh ben, c'est pas compatible. Donc, entre l'augmentation du coût du papier, l'augmentation du coût aussi de l'imprimerie, qui n'est pas que le papier, il y a également le coût de l'électricité. Je pense qu'il y a eu également une prise de conscience qu'il y avait des remises en question à faire, qu'ont fait beaucoup d'imprimeurs. Et puis le fait qu'il faut aussi travailler pour gagner un petit peu d'argent, eh bien, il n'était plus possible de tenir, ce qui d'ailleurs m'a vraiment causé de la peine, parce que j'y tenais énormément, mais continuer à avoir des collections à 7-8 euros, surtout avec le produit qui était proposé dans ce tarif-là, c'était plus possible. Ça a été pareil pour les cahiers, pareil.
On a encore plein de sujets à aborder, donc j'ai essayé d'être plus rapide dans mes questions. L'émission s'appelle Une belle rencontre, et on ne peut pas parler de Ubicart sans parler de la rencontre que vous avez faite avec l'artiste Virginie Guidet, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, dans cette belle rencontre, et qui est créatrice de la ligne graphique. C'est une belle rencontre, c'est par exemple là de l'énergie quand quelqu'un vient et a le même goût pour la beauté des livres, pour l'esthétique.
Belle rencontre, et surtout une rencontre qui s'alimente tous les jours, puisqu'en réalité, le travail de Virginie vient apporter du complément au mien, et réciproquement, je pense que le fait que nous travaillons ensemble lui a donné quelques nouvelles pistes, qui se concrétisent d'ailleurs par une publication commune.
On va en parler en fin d'émission, voilà. On va en parler, c'est important. Ubicart, c'est de nombreux univers, hein, donc de la poésie, du roman, du livre d'art. Mais ce que vous me dites, c'est qu'en effet, il n'y a pas vraiment de ligne graphique, que votre ligne graphique, c'est vous, quoi. Votre ligne éditoriale, excusez-moi. Oui. Comme j'étais dans le graphisme avec les couvertures de Virginie, je n'avais pas tout à fait quitté Virginie. La ligne éditoriale, c'est un peu vos coups de cœur, vos rencontres.
Alors c'est vrai qu'il se dégage une ligne éditoriale apparente qui est celle que nous avons privilégiée, les livres d'artistes et la poésie, c'est vrai, mais ce n'est pas que vrai, mais essentiellement c'est le coup de cœur qui fait que quand j'apprécie une personne en tant que personne, il est rare que je sois déçu par ses textes. En revanche, je peux apprécier un texte et être très déçu, c'est arrivé, par la personne qui les a rédigés.
On vient beaucoup vous voir aujourd'hui, Jean-Claude Rivière ?
On nous rencontre beaucoup, surtout par les voies numériques, mais c'est vrai que nous avons actuellement une bonne trentaine de manuscrits qui arrivent tous les mois.
Et vous dites souvent non ?
Il m'arrive même de ne pas répondre du tout, ce qui est encore au pire. Je vous en prie.
Quelque chose que je voulais mettre aussi en avant, alors dans le nom, mais finissez de dire sur le nom, parce que c'était intéressant.
Je disais qu'il y a des textes qui arrivent et qui n'arrivent pas au bon moment. Ah. Donc il est important, ça c'est intéressant de signaler pour le cas que certaines personnes, entendant notre entretien, puissent avoir des idées. On peut très bien dire qu'un texte n'a pas été choisi parce que ce n'était pas le bon moment. Oui. Il faut revenir. Il faut revenir parce que j'oublie aussi.
Tout à fait.
Et j'oublie.
Une chose que je voulais mettre en avant, on parlait du travail d'équipe avec Virginie, on peut aussi parler de l'univers de Jean-Claude Rivière. À chaque fois, je ne dirais pas une bande, mais il y a quand même quelque chose, notamment aujourd'hui, ce que vous avez créé, cet événement qui vient tous les mois au Théâtre Tabar, donc a été repris par une nouvelle direction, par Damian notamment, je ne me rappelle plus de son nom.
Goudet.
Voilà. Damian Goudet. Et donc, il propose plein de nouvelles choses au Théâtre Tabar, qui est situé rue Ferdinand Fabre, dans le quartier des Beaux-Arts, je le rappelle. Et donc, vous avez fait un partenariat avec Damian et vous créez tous les mois un moment où vous parlez de vos ouvrages, mais aussi où il y a une scène ouverte, où les gens viennent s'exprimer. C'est important comme ça d'avoir, pour un solitaire, dans la création, on est souvent solitaire, une bande qui vous suit.
C'est très important parce que d'abord, on a créé des moments qui sont des moments vrais. On se disait qu'on était peut-être amené à avoir des publics ou des participants qui fluctueraient. Mais non, il y a un noyau dur. Et de plus en plus, On vient par plaisir, en fait, c'est l'impression que nous avons. Donc, en revanche, il n'y a pas qu'une manifestation par mois, parce que nous avons aussi des possibilités de faire ce que Damien a appelé des bulles d'acteurs, où nous avons, avant un spectacle, demi-heure, trois quarts d'heure, pour faire revenir de jeunes acteurs, tous pratiquement montpellierains, qui vont faire découvrir un ouvrage, quelques extraits d'un ouvrage, dont il y a à la fois une espèce de coup de projecteur sur un auteur, un livre, et puis en même temps, la grand-messe tous les mois dans laquelle on va partager autour des ouvrages parus. On va faire participer les auteurs en cours, même des auteurs futurs, à une scène offerte où ils pourront lire leurs textes, toujours autour du foyer qui est le lieu de convivialité du théâtre. Et ça se passe très bien.
Et puis, vite fait, on va dire, enfin, on n'aurait pas, parce qu'on aurait passé du temps dessus, mais bientôt, Ubicard va devenir une voix radiophonique sur FM+, sur Radio FM+, puisque vous allez intervenir une fois par mois pour nous parler de tout ce que vous faites sur Ubicard. Ça sera, je crois, une fin de matinale, donc 10h10, 10h40 à peu près, où vous aurez voix pour parler justement, pour donner suite à ces rencontres théâtrales et à vos sorties éditoriales.
Tout à fait, ça sera même l'occasion de faire peut-être venir des auteurs qui pourront parler d'eux, entre eux. Enfin, c'est une véritable conséquence de tout ce que nous avons fait, et merci à Radio FM+ de nous permettre d'avoir cette espèce de scène offerte par les voix de la radio.
Eh bien, collègues, bienvenue. Je voulais vous parler un peu de ce que vous aviez mis de côté sur votre activité aussi, et ce pourquoi je vous ai reçu au début, c'était votre activité d'auteur. Mais comme le temps nous presse, j'aimerais qu'on passe un peu de temps, il nous reste un peu moins de 3 minutes, sur l'avenir là proche et sur les projets que vous avez. D'abord, comment aujourd'hui connaître Ubicard ? Quels sont les canaux pour vous faire connaître ?
Alors, Ubicard, c'est simple. Vous avez Facebook, évidemment. Tout le monde connaît Facebook. Il y a des pages Ubicard. Il y a la page Ubicard et la page virtuelle écriture. Ensuite, il y a notre site qui s'appelle tout simplement Ubicard, sur lequel vous trouverez des informations, des comptes rendus et la boutique qui permet d'accéder aux ouvrages. Nous avons ensuite la possibilité, bien sûr, d'être rencontrés au cours des événements que nous faisons, et puis une boutique que nous avions, que nous n'avons plus, et que nous sommes en train de rechercher pour avoir un point de vente à Montpellier, mais les choses changent, ce que nous avions, nous n'avons plus, donc parlons du futur, peut-être. Il est possible d'ailleurs que nous ayons aussi une boutique dans un autre endroit, probablement à l'Odève, c'est encore quelque chose à définir, mais ça se précise.
Et puis pour finir, que vous nous parliez de ce très beau projet dont Virginie nous a un petit peu parlé il y a 3 semaines. Donc ce livre d'auteur, ce livre d'artiste.
Tout à fait.
Que vous
livre
êtes en
d'art,
train...
livre d'art.
Oui, tout à fait. Donc qui est des poésies. Rappelez-moi le titre.
Blason du corps féminin.
Donc des textes de vous qui sont illustrés.
De Marc Kelly.
De Marc Kelly.
Pas dire que c'est de
moi. Je disais que vous écriviez plus quand même.
J'ai écrit.
Ah voilà. Et puis illustré donc par Virginie dans une toute nouvelle création pour Virginie.
Alors, c'est pas illustré. Le mot illustré est, je pense, un peu réducteur. Donc c'est accompagné. C'est-à-dire que Virginie a fait des œuvres qui sont pas forcément l'illustration des textes qu'elle accompagne, mais ce sont des œuvres inspirées. Et elle est partie dans d'autres expressions artistiques que celles qu'elle a utilisées jusqu'à présent, pour notre plus grand bonheur. Et c'est quand même intéressant de savoir qu'il y aura dans cet ouvrage 14 dessins originaux, et ça sera tiré en quantité très limitée, donc ça restera un vrai livre d'art.
Ben vous viendrez nous le présenter. Hein, voilà. Moi, j'en ai déjà commandé un. Donc, on vous a donné toutes les bonnes adresses. On mettra tous les liens sur le site. Et puis, je vous remercie beaucoup, Jean-Claude Rivière, cher collègue, d'être venu partager ce moment avec moi. Et je dis à tout notre public à la semaine prochaine avec le pasteur Michel Fréchet, qui viendra nous raconter sa vie de pasteur sur Montpellier et notamment dans le lieu qui nous accueille, c'est-à-dire le Carousel. À bientôt, Jean-Claude Rivière, et merci.
À très bientôt. Merci, Nathalie.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.